naissons, nous grandissons, souvent sans en prendre la mesure, dans le bruissement des milieux des récits, de romans, de poèmes qui nous ont précédés. Sans leurs appels pour nous guider, sans les échos alors éveillés en chacun, ne resterions-nous pas tels des enfants perdus dans les forêts obscures ? Il était une fois, et voilà que le monde se peuple de présences invisibles, ces contes, ces récits étaient donc déjà là, qui nous attendaient, jalons laissés par d'autres en chemin, dessinant peu à peu une forme, un visage, dans l'inconnu du monde, à charge pour nous d'en prolonger le geste. Michel Lebris est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Pour l'amour des livres ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec Boris Vian.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau gelé vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Pouvez-vous nous dire, Michel Lebris, pouvez-vous nous décrire le bruit du vent, le bruit des vents dans la baie de Morlaix ?
Oh mon Dieu, il y a toutes les musiques du monde. La mer, il y a le chuintement sur les goémons secs quand elles montent. Il y a la respiration douce le soir, souvent quand elle devient lisse. Il y a le grondement des vagues quand elles se forment, arrivent, déferment. Les hurlements quand elles explosent contre les rochers. C'est pour moi tout le poème du monde. Je suis né là et cette musique-là me hante encore aujourd'hui. Un jour, j'ai réalisé, j'ai écrit quand même pas mal de livres, et tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est curieux. J'ai commencé ce livre-là, les premières phrases sont venues en promenant dans le bord de mer, là où je suis né. Et puis, je dis, ah ben tiens, oui, celui-là aussi. Je remonte, et je me suis aperçu que tous mes livres, sans exception, ont commencé là. Comme si cette musique-là, ce grondement-là, portait... Tout d'un coup, il y a des mots qui venaient dessus, qui me prennent en général par surprise. Et je sais que c'est le début. Aussi, des fois, ça m'est arrivé pour un livre d'avoir la phrase de fin avant d'avoir celle du début. Alors, bon, les psychanalystes se régaleraient, probablement. Ça veut dire quelque chose pour moi. C'est cette puissance-là, dehors, elle m'habite en même temps.
Vous avez inventé d'ailleurs un terme qui s'intitule le grand dehors.
Oui.
Ce grand dehors, c'est quoi ?
D'abord, c'était un mot d'un voyageur dessinateur d'oiseaux et de mammifères qui est Audubon. Il monte, il remonte le Missouri. C'est la fin de son dernier voyage. Il est étrangement silencieux. Quand il va revenir, il ne parlera pas pendant des années. Rien. Et au moment de mourir, il dit « The Big Sky ». Et comment traduire « The Big Sky », qui est aussi maintenant le surnom du Montana. C'est m'est venu cette idée, le grand dehors. C'était vraiment ça, l'épreuve ultime qu'il avait vécue. Et après ça, il se retrouve incapable de parler.
Pouvez-vous évoquer, Michel Lebris, les sensations qui vous assaillaient quand, jeune enfant, vous alliez dans cette baie de Morlaix, où vous êtes né, poser votre corps dans une faille d'un rocher?
Oui, oui, c'est la pointe qu'on appelle le fort, parce qu'en breton, dans la Bretagne, il y a toujours les mots, on ne dit pas le fort, on dit le fort. C'est une pointe avec des lames de granit, comme ça, et j'étais attiré par cet endroit, parce que quand, surtout dans l'automne, les tempêtes de surroît, dans l'hiver, comme ça, là, ça se met à gronder, ça a des couleurs jaunes, presque de bitume parfois, et on voit ça comme des grands chevaux qui galopent vers vous et qui éclatent contre ces lames de granit, avec des gerbes d'écume qui passent par-dessus vous, d'ailleurs. Et il y a un endroit où je me blottissais, comme ça, contre une de ces lames de granit, parce que les vagues cognaient vraiment très fort, on le sentait trembler comme ça. Ma mère s'affolait un peu quand même, elle dit qu'il lui arrivait quelque chose un de ces jours, et moi-même, je me demandais si j'étais tout à fait normal de revenir sans cesse comme ça. Et puis, j'avais la sensation que toute la puissance du monde était là. Que la mer, c'est toute la puissance de destruction du monde. Mais la mer est tellement belle aussi. La mer, c'est la promesse de l'horizon. La mer, c'est le calme le plus extrême aussi. Elle est, en même temps, c'est pas seulement une surface, c'est l'idée de toute une richesse invisible sous la surface. L'état de légende, le peuple de fées, d'ondines, imagine des trésors enfouis. C'est le lieu aussi d'où est née toute vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a structurer, je crois, à jamais cette sensation qu'il y avait là la force première du monde et qu'elle était force de destruction. Rien ne résiste à la mer. Elle a le temps. Elle peut mettre des siècles, mais elle vous aura au bout d'un moment. Et c'est toute la puissance de création du monde qui s'y trouve aussi. Et j'avais ce trouble, cette intuition que c'était la même, qui était indifféremment créatrice ou destructrice. Tout ça, quand vous avez 10 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça vous met dans un drôle d'état. Et puis, j'ai eu la chance d'un instit extraordinaire qui m'a fait lire plein de choses. Tout d'un coup, lisant La Légende des siècles, de Victor Hugo, etc., je me suis reconnu dans ce qu'il disait. Alors, bon, quand personne me regardait, je regardais, parce que si quelqu'un me voit, je vais passer pour un imbécile. Et je voyais la mer qui arrivait comme ça, et puis j'étais là, il dit, il y a des racines, un chêne, etc. Et la mer venait, et paf, passait au-dessus de moi, comme ça. Je me demande si je serais caché sous terre, si quelqu'un m'avait vu à ces moments-là, mais pour moi, c'était ça, quoi. Et puis j'ai lu Jack London, The Call of the Wild, l'appel dit de la forêt, ce qui est une absurdité, c'est l'appel du sauvage, en fait. L'appel de la force, de cette force au cœur du monde. J'ai lu Moby Dick de Melville, j'ai lu Conrad, le nègre du Narcisse, par la grâce d'une collection extraordinaire qui était la Bibliothèque Verte à l'époque, où c'était les grands livres qui étaient offerts à la jeunesse. Et j'ai su avec une force incroyable qui m'a bouleversé littéralement à cette époque-là, que tout cela parlait exactement de ce que je vivais, de la mer là au dehors, que c'était de ça qu'il parlait, de ce mystère du monde, de cette énigme d'une force indifféremment créatrice, destructrice. Après, la question, quand vous avancez un petit peu, c'est de savoir comment vous faites pour la rendre créatrice et non pas destructrice. Mais c'est au départ la même. Et il faut que vous la découvriez en vous, si vous voulez habiter un lieu pareil, il faut que vous la découvriez en vous aussi, puisque nous sommes de ce monde, pour une part quand même. Et apprendre à la domestiquer. Stevenson dira, c'est par le pouvoir plastique de l'imaginaire, de créer des formes qui contiennent cette force et qui la révèlent en même temps, comme si c'était un visage dans l'inconnu du monde. Et je crois que c'est ça, la littérature, à son plus haut. C'est dessiner des visages dans l'inconnu du monde, rendre habitable le monde. On habite le monde par ses fictions, en fait.
Vous avez été à l'école assez tard, Michel Debris, oui. Parce que vous deviez vous occuper d'une grand-mère impotente, oui, dans la petite maison que vous habitiez dans la baie de Morlaix. À l'école, ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, notamment quand il fallait dire quelle était la profession de la mère, puisque de père, il n'y avait pas.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement ma mère. Il faut comprendre, ma mère avait 10 ans et vivait seule avec sa grand-mère, enfin sa mère, ma grand-mère qui était veuve de guerre. Et en rentrant de l'école quand elle avait 10 ans, elle trouve sa mère paralysée dans le jardin. Elle a réussi à grand-peine à la mettre dans son lit. Et à l'âge de 10 ans, sa vie a été finie. Et elle a dû chercher du travail. Quand je regardais ma fille à l'âge de 10 ans, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. À 10 ans, seule, complètement épouvantée, elle a dû faire face dans l'enchaînement des malheurs, des problèmes, etc. Et effectivement, elle a été aussi, ce qu'on dit aujourd'hui, mère célibataire. À l'époque, je vous assure, fille-mère, ça voulait dire tout à fait autre chose. Donc c'est très dur. Alors, j'ai vu ce que le regard des autres, ce qu'on lui faisait subir aussi. Et c'est quand même extraordinaire. C'est le cadeau qu'elle m'a fait. C'est d'avoir toujours été souriante, d'avoir fait de la maison qu'on était, c'était un taudis. L'eau passait dans les toitures, les planchers étaient pourris, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, on s'éclairait à lampe à pétrole. C'était très... Mais je garde un beau souvenir de cette période-là. Elle a su faire de cette maison quelque chose en même temps d'un paradis par son sourire, par ses rires, etc., sa générosité. J'aurais pu sortir de là comme un bloc de haine grâce à elle. Et non, ça n'a pas été le cas, même si, par contre, je suis sorti de cette période en disant « J'aime plus jamais ça, jamais je ne céderai ». Je crois que j'ai jamais cédé depuis.
Et jamais cédé à quoi ? À l'injustice sociale ?
À l'injustice, à... Vous savez, dans la vie, vous avez des tas d'occasions de louvoyer, hein. Je préfère perdre, je préfère, etc. Mais ne pas bouger, j'en suis incapable. Quand j'étais petit, il y avait des femmes, des notables du bourg, qui donnaient à ma mère leur linge à laver dans un lavoir. Et elle y était à 5 heures du matin, même s'il faisait froid, parce qu'elle avait des tas de petits boulots pour survivre, comme ça, tout au fil de la journée. Évidemment, il ne la déclarait pas, ça ne s'est jamais effleuré. Mais de temps en temps, il venait apporter des écharpes, des pulls, des... Et ma mère me donnait des coups de coude comme ça. Moi, je serrais les dents. Et en plus, il fallait dire merci. Jamais. Jamais. Et elle comprenait pas trop. Je dis non. Jamais je ne dirai merci à ça. C'est pas la peine de... Et là, il y a quelque chose qui s'est formé là. Mais voilà, j'ai envie de dire... Ça n'a pas été simple de dire merci à ce cadeau qu'a fait ma mère, de faire que je n'ai pas été ce bloc de haine ou de colère. Et ça n'a pas été simple en même temps, parce que bien sûr j'étais sa revanche sur l'existence. Un jour je lui ai dit, elle me regarde, elle me dit, mais je ne t'ai jamais rien demandé. Mais évidemment, elle ne m'a jamais rien demandé. Mais c'est encore pire. Je savais que si je n'étais pas systématiquement premier en toutes les matières, tout le temps, année après année, elle ne m'aurait rien dit, mais je savais qu'elle en aurait été blessée, quoi. Donc j'ai été premier tout le temps. Voilà, c'est ce qui vous isole encore plus, évidemment, des autres gamins qui vous regardent à ce moment-là comme un extraterrestre. Voilà, c'est... Et le livre... Les livres, à cette époque-là, ont eu une importance capitale, parce que j'ai eu la chance, quand même. Dans ma vie, j'ai eu la chance, à l'âge de 10 ans, ma mère m'offre, pour l'entrée en 6e, j'ai fait toutes les classes intermédiaires en 2 ans, en fait, puisque le directeur de l'école primaire était venu dire, mais Marie, il faut qu'il vienne à l'école, quand même. Et ma mère dit, mais comment moi je vais faire pour... Il faut quelqu'un pour s'occuper de ma grand-mère. Je dis, oui, mais maintenant, quand même, là, je vais devoir 6 ans et demi, ou un truc près de 7 ans, un truc comme ça, il faut qu'il y aille. C'est ma grand-mère qui m'avait tout appris, puis elle plaisantait pas, c'était la femme bretonne, elle avait un peu autoritaire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle m'avait donné des livres pour m'apprendre à lire, écrire, compter, les géographies, les départements, les conjugaisons, les tables de multiplication. Ça, elle, c'était par cœur. Tout. Tête de l'instituteur, quand je suis arrivé à l'école, je lui dis, tu sais, moi je veux bien rester le soir pour te faire rattraper. Ça, je dis, ben oui, je veux bien. Puis il me dit, bon, alors, tu sais tes tables? Je dis, ben oui, tes conjugaisons. Puis il me regardait comme ça et... Donc il dit, bon, l'imparfait du subjonctif quand même. Je me suis dit, mais je sais pas, je savais, mais je me suis dit, tout d'un coup, là, faut faire attention, quoi. Et elle a l'entrée en 6e, en cadeau, ma mère m'offre un livre, donc on va prendre le car Mérère pour aller à Morlaix, la librairie Rioux-Kernet, je me rappelle, et je vois en bibliothèque Rouge et Or, La guerre du feu, qui était annoncé dans Mickey, qui allait passer en bande dessinée, etc. Mais là, tout d'un coup, je vais avoir tout d'un coup. J'ouvre ce bouquin. Waouh ! Les Oulram fuyaient dans la nuit épouvantable. Tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Suprême, le feu était mort. Waouh ! C'était le monde dans sa fureur première, qui avait l'air de brasser le végétal, le minéral, l'animal, etc., comme s'il y avait une espèce de... un monde en gésine, quoi. C'était comme la mer, là, au dehors. Je fais une rédaction totalement... J'aurais aimé retrouver le cahier, mais enfin, je remplis un cahier quasiment. L'instituteur me dit, mais attends, là, qu'est-ce qui te prend ? Alors je lui dis, oh, bon, je viens de lire un bouquin, c'est génial et tout. Et il a cette réaction incroyable. Il me dit, bah, écoute, moi je donne des sujets, mais enfin, parce qu'il y a une rédaction par semaine. Mais si toi tu as envie de raconter autre chose, tu peux raconter autre chose. Hein. Ce qui compte, c'est d'écrire. J'ai tout dit, mais c'est un piège, ça. Puis non, c'était pas un piège. Je l'ai eu pendant 4 ans et j'ai écrit une petite nouvelle pendant 4 ans grâce à lui. Il était juste là pour me guider, me conseiller. Il disait, tu sais, tu devrais lire peut-être ça, tu me diras ce que t'en penses, etc. Et il m'a ouvert toute sa bibliothèque en disant, tu prends ce que tu veux. Hein. C'est de toute manière, si tu comprends rien, tu laisseras tomber. Et si tu comprends quelque chose, ben, tant mieux pour toi. J'ai lu La condition humaine quand j'avais 10 ans, comme ça. À la grande fureur du directeur. Qu'est-ce qu'il peut comprendre à ça? Je dis, ben, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Mais s'il le lit, c'est qu'il y comprend quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Cet instit de M. Rospart, je lui dois quasiment tout, j'ai l'impression, parce que vraiment, c'était quelqu'un de totalement extraordinaire, que j'ai fini par retrouver à la fin de sa vie. Il était parti en Algérie, il était militant dans les réseaux de soutien au FLN, et c'est comme ça, il avait disparu parce qu'il était passé en Algérie, puis de là, il était passé en Afrique, et tout le monde avait perdu sa trace. Et c'est grâce à France Culture que je l'ai retrouvé, l'émission « Le Bon Plaisir ». Christine Goémé avait eu cette idée simple, c'était le fichier des retraites de l'éducation nationale, et ils m'ont fait cette surprise de m'amener avec grand mystère au centre Bretagne. Il sonne à la porte s'ouvre, et je vois M. Rospart, qui est tout sec, c'est un sportif, il n'a pas bougé, je me suis senti une gamin en culotte courte, comme ça. C'était un choc. J'ai mis un bon bout de temps avant d'arriver, parce qu'il me dit, non, mais attends, tu vas arrêter, tu vas me tutoyer quand même. Oh, bon, vous tutoyez, c'était M. Rospart quand même. Puis c'est arrivé quand même, j'ai fini par pouvoir le tutoyer, mais et pouvoir le dire merci. On ne dit pas assez souvent merci à tous ceux. Nous sommes tous des transmetteurs, en fait. Quand je parlais de ce bruissement dans lequel on est, c'est fondamental, cette idée du créateur qui se veut d'une originalité totale, qui oublie tout ce qu'il y avait avant. Non, on est là aussi, on porte toute la mémoire de la littérature, du monde. On a comme mission première de la transmettre, parce qu'il y a un message d'humanité à travers tout ça. On s'est découvert soi-même à travers ça. Alors c'était pas mal de dire, profiter d'un livre pour dire merci à tout cela, parce qu'il y en a eu, d'autres aussi, dont le père de copains d'école qui venait là, deux copains qui venaient de Paris en vacances près de chez moi, cinq frères qui sont devenus mes frères d'une certaine manière, et il s'était mis en tête, le pauvre, de m'apprendre le grec et le latin pour que je fasse normal sup, parce qu'il était prof de normal sup Saint-Cloud. C'est assez difficile l'été quand la marée est en train de baisser, que le bateau va se retrouver à sec sur son corps mort, etc. Il soupirait, bon. Mais lui aussi, vous pouvez me faire les Chateaubriand, Stendhal, etc., en Pléiade, j'osais même pas les ouvrir, c'est tellement ça paraissait fragile. Et il a eu cette réaction quand même extraordinaire. C'est bon, j'ai passé donc quand j'avais 14 ans, et le certificat d'études, et le BEPC, et le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur. Normalement, il faut une année de préparation, mais on s'est dit, bon, écoute, tu le passes, il n'y aura aucun problème. J'ai été reçu les premiers aux trois. Et il est venu de Paris, tout exprès, il a pris le train, il est venu pour voir ma mère en lui disant, écoute, Marie, non, il peut pas faire, l'école d'institut de Quimper. Moi, je peux arriver à le faire entrer au lycée Hoche à Versailles. En plus, au lycée de la bourgeoisie versaillaise, le choc culturel fut fort, disons, dans ses premiers instants. Mais voilà, j'aurais été instit s'il n'avait pas été là pour s'occuper de tout, faire entrer au lycée Hoche, remplir des dossiers pour qu'on ait une bourse, etc. Et puis, les choses s'en sont suivies après, voilà. Mais il y a des moments comme ça où les gens jouent un rôle décisif. Ça aurait pu bifurquer à ce moment-là. Et puis, non, j'essaie d'imaginer ce que serait passé si j'avais été instit. Peut-être que j'aurais écrit des livres aussi, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, le cours de ma vie a été changé à ce moment-là, comme 68 a changé aussi le cours de ma vie, la rencontre avec Jean-Paul Sartre, etc. Il y a des moments, ça, dans la vie. Il y a Victor Hugo qui a une belle phrase, je trouve, c'est je ne sais quoi dans l'admiration qui force l'intelligence. Quelque chose dans ce sens-là, enfin, qui rend plus intelligent. Et Tournier lui-même disait que ceux qui étaient incapables d'admirer étaient des pauvres types. Et il y a même une troisième phrase qui me fait penser parfois à notre milieu littéraire aussi de Hugo, « Haïr est la manière pour les médiocres d'admirer ». Ça aussi, ça a été ce que j'ai un peu découvert dans le milieu littéraire. Mais que ces deux personnes parlent de cette manière qui me touche profondément, de l'admiration nécessaire, donc du sentiment d'avoir à prolonger une aventure, ça me touche, oui.
Lire, c'est vivre, c'est ce que vous expliquez dans ce très beau livre qui s'intitule « Pour l'amour des livres », Michel Lebris. On ne sait pas comment se construit une personnalité, un rapport au monde. Est-ce que c'est soi-même qui volontairement allons vers des choses qui nous sont essentielles, ou est-ce que ce sont les événements extérieurs qui vont vous aider à construire quelque chose qui était à l'intérieur de vous? Vous l'avez dit tout à l'heure, après le lycée Hoche à Versailles, vous avez commencé à devenir un militant politique qu'on peut dire d'extrême gauche, je crois que vous revendiquez ce terme, et vous venez d'évoquer, mais on reviendra sur cette extrême gauche et sur cette réflexion que vous avez aujourd'hui en 2019 sur cette période-là de la vie où vous fûtes ô combien actif et engagé. Vous venez de prononcer le nom d'un homme qui a été déterminant pour nous tous, mais vous avez eu la chance de bien le connaître, d'être à ses côtés, d'être dans l'aventure, puisque vous êtes l'un des cofondateurs de ce journal qu'il a fondé avec vous, qui s'appelle Libération. Je vous propose d'écouter la voix de Jean-Paul Sartre à propos de la position de l'intellectuel avant 68 et après 68. C'est un entretien avec Michel Contat en 1975.
À partir du mois de mai, est arrivé quelque chose de très particulier. Le mouvement étudiant qui a commencé est descendu dans la rue et a contesté un certain nombre de choses. Et on s'est aperçu qu'à travers tout ça, ce qu'il critiquait, c'était l'intellectuel classique, entre autres. Alors, qu'est-ce qui fait, à ce moment-là, qu'il est intellectuel? Je pense que dans une société socialiste telle qu'on pourrait la rêver, il n'y en aurait plus d'intellectuel. Précisément parce que cette contradiction n'existerait plus du tout. Actuellement, ceux des intellectuels qui ont compris ce que je dis sont avec les masses et simplement, quand la situation le demande, peuvent mettre au service des masses, c'est-à-dire de l'universel concret, leur tendance à l'universalité due à leurs études. Il est encore possible que l'intellectuel serve les masses en leur donnant ce qu'elles peuvent demander.
Que pensez-vous des propos que vous venez d'entendre de votre ami, ex-compagnero, Jean-Paul Sartre, Michel Debrisse?
Je les entends parce que c'était ce dont on discutait à l'époque.
Des nuits entières.
Oui, mais il y aurait une multitude de nuances à apporter. Déjà, à cette époque-là, dans l'après 68. 68, lui, il y a une réaction immédiate, et Maurice Clavel aussi. Clavel, il sort un édito dans Combat, qui le titre « Le structuralisme est mort ». Les gens se regardaient, pourquoi il parle du structuralisme? Mais il avait très bien compris. Le structuralisme, c'était quoi? C'était, comme on disait, la mise entre parenthèses du sujet, du sens et de l'histoire, ce qu'on appelait le référent, qui vouait la littérature à être, disons, purement un jeu formel. Sartre et Clavel, ce qu'ils voulaient dire, c'est fini. C'est le retour du sujet, du sens et de l'histoire. Donc le structuralisme est mort. Sartre a pensé la même chose. Ah, ils m'ont enquiquiné pendant des années, tous ces structuralistes, je ne vous dis pas les qualificatifs qu'il employait à ce moment-là, en plus, quand il était en amitié comme ça, mais il s'est précipité à la Sorbonne, évidemment. Lui-même pensait ça, le sujet, le sens et l'histoire fait retour, donc tout ça, ça va être balayé, ça mettra peut-être 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, mais ça sera forcément balayé. Le deuxième moment qui a été extrêmement fort, dont on parle peu, en plus je m'aperçois que tous ceux qui participaient à ces moments-là, en dehors de Christian Jambet, sont morts, hélas, Clavel, Foucault, Guillardreau, etc. Et Clavel lui-même. Mais c'était tout d'un coup de se poser une question simple. J'aimerais bien que la gauche aujourd'hui se la pose, cette question
simple. Oui, en 2019, vous la posez dans votre livre. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette gauche?
Oui, mais...
Et où elle est, la gauche?
Ben, là, c'était de se dire, parce que, comme on dit, le marxisme était l'horizon indépassable de la culture. Tous les intellectuels s'agenouillaient devant le dogme, etc. Et tout d'un coup, c'était extrêmement difficile d'oser le formuler à ce moment-là. Une théorie qui fait de sa capacité à transformer le réel sa preuve et qui foire à chaque fois qu'elle s'applique au réel, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, partout où cette pensée s'est appliquée, ça s'est terminé en catastrophe, misère, famine, goulag, prison,
totalitarisme,
hôpitaux psychiatriques, plus de liberté bourgeoise, par exemple comme celle de la presse, etc. Et on voit encore qu'aujourd'hui, certains se cramponnent, ils veulent à tout prix trouver un endroit où ça aurait pu marcher. Ça ne marche pas. Et donc tout d'un coup, on s'est regardé en disant, mais... Bon, et si on se disait que c'est pas la faute du réel, mais que c'est la faute de la théorie. Et à partir du moment où on se dit ça, et on commence à tout fouiller, je veux dire, à tout décortiquer, ça met pas très longtemps à s'effondrer à partir de ce moment-là. Diverses ont été les voix après d'une philosophie de la liberté, mais ce moment-là d'une pensée entre Clavel, Foucault, etc., d'une philosophie de la liberté qui dirait adieu, en gros, au marxisme, Ça a été notre histoire. Et j'ai été très heureux, après la levée du siège Sarajevo, on a monté avec Francis Boeb et son centre André Malraux, on a monté 3 éditions du festival sous un autre nom, mais c'était le festival. Et puis on a fait une grande édition européenne à Saint-Malo. Et donc il y avait là 30-40 écrivains venus de l'Est, dont un type formidable, il s'appelle Vidozav Stevanovic, qui était le grand opposant, un romancier, le grand opposant à Milosevic en Serbie. À la fin des 3 journées de discussion entre ces intellectuels et écrivains venus de l'Est et puis ceux de l'Ouest qui étaient là, le dernier jour, dans l'auditorium 1000 places, il apostrophe la foule et il dit « Est-ce qu'il y a ici quelqu'un doué de raison qui peut répondre à nos questions ?» Parce que franchement, là, on a passé nos 3 jours à discuter, on ne comprend pas. « Est-ce que quelqu'un peut rationnellement m'expliquer comment il est encore possible ?» que notre cauchemar soit vos rêves. Si vous voulez savoir ce que c'est le communisme, on peut vous expliquer ça tout de suite, on est tous là. On peut vous dire le mensonge généralisé, le sens de chaque mot renversé en son contraire, chacun devenant le flic de tous les autres, etc. On peut tout vous expliquer comment que ça marche. Mais on a compris quelque chose, c'est que vous n'avez pas envie. Vous avez juste envie qu'on rentre chez nous et que vous puissiez continuer à tourner votre moulin à prière. Eh bien, les quelques survivants de cette gauche-là qui ne s'est jamais posé de questions, ils continuent à gigoter leur moulin à prière. Et c'est catastrophique pour moi aujourd'hui, cette absence-là d'une pensée de la liberté différente. C'était ça l'enjeu de toutes ces années et c'est ça que je continue à chercher.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Nous n'avons pas retrouvé votre instituteur Michel Lebris, mais nous avons retrouvé un document très intéressant, car vous avez plusieurs vies. Vous êtes écrivain, vous avez publié de très nombreux livres dans différents registres, poétique, politique, littérature monde, voyageur, beaucoup de livres sur Stevenson, sur Herman Melville, etc. Et vous avez créé ce festival d'étonnants voyageurs qui a commencé à Saint-Malo et qui maintenant circule dans le monde entier. Nous avons retrouvé un document où Arthur H., le chanteur, va chanter un texte qu'il a écrit pour vous. C'était en 2013. Écoutez.
San Francisco, 3 mai 1860, tonogène. Ma chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais s'il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme ma main nue, entouré de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, nous ne vivons qu'à par elle, la montagne nous dévore. Oh, tout est bon, ici ça va, je suis vivant, ici c'est chaud, je suis sauvé, ici ça va, je suis vivant, ici c'est bon, ici ça va, ici c'est chaud. Résonne le tonnerre de la dynamite, des blocs de roche s'affaissent et dévalent le long des ravines. Oh Marie, à chaque seconde, l'avalanche me désire et me frôle. Ce matin-là, elle me prodigue ses plus douces. Amoureusement, elle m'enlace, ma chère Marie, enfin, c'est l'heure du secret. Tu vois, sous mes draps, il y a ce petit sac en cuir noir. Oh Marie, ce qui illumine mes mains, c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Et sens sur ton visage ce vent qui te lave et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique. Oh, tout est bon ici, ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant.
Vous vous souvenez de cet instant-là? Parce que pour vous, Michel Lebris, la littérature, ça passe évidemment par la poésie, ça passe par le voyage, ça passe par la fulgurance, ça passe par la fiction. On reviendra à votre éloge, que l'éloge de la fiction que vous écrivez dans ce livre magnifique Pour l'amour des livres, mais ça passe aussi par des moments comme ça de partage.
Oui, bien sûr. C'est là que la puissance du chant, c'est le chant qui lie la poésie et la musique. C'est ce qui fait société, c'est ce qui fait qu'on est ensemble par le haut, pas par le bas des groupes haineux, des égoïsmes conjugués, etc., mais par ce sentiment de grandeur qui peut habiter chacun. Et à ce moment-là, l'être ensemble, chacun se sent plus grand que lui-même. Et ça, c'est la force. Là, c'était un moment exceptionnel, parce que nous étions en Haïti au moment du tremblement de terre et on revenait ensuite, et on s'était vraiment battu à leur côté. On a monté ce festival avec eux, Daniela Ferrière, Lionel Trouillot, etc. On était ensemble en le faisant. Et la foule des Haïtiens était là aussi. Elle savait ce qui s'était passé et elle voulait quelque part nous dire aussi merci d'être là. Parce que on n'avait pas fonctionné comme une ONG, on n'était pas là en train de distribuer les choses, on était en train de faire quelque chose avec eux, en parlant à leur part de grandeur, quelque part. Et cette nuit-là, je me rappelle, Julien Delmer avait écrit un texte magnifique pour dire ce qui s'était passé, et en plus, moi, alors là, je suis resté, je savais pas du tout ça, et puis il commence, en disant, voilà, donc il me salue, il me rend un petit hommage, comme ça, bon. Et puis, il dit, voilà, c'est en lisant votre livre, La Porte d'or, je me suis mis au piano et j'ai composé cette chanson, Les chercheurs d'or. Vous imaginez, vous êtes là au premier rang, on m'aurait demandé de parler, j'aurais été incapable de dire un mot, quoi. Donc, une espèce de fraternité très, très douce, comme ça, les gens n'arrivaient plus à se quitter après. Ah, ça a été vraiment, quand la création artistique crée ça chez les gens, c'est quelque chose de magique. Et on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce livre. Les livres, c'est pas une distraction. C'est autre chose. Nous sommes une civilisation du livre. Ce que porte l'idée du livre est absolument immense. Alors, je sais bien, si on dit le mot transcendance aujourd'hui, tous les bien-pensants tombent en syncope, etc. Mais si tel poème écrit en Chine il y a 1000 ans, dans une autre langue, dans un autre contexte culturel, rappelez-vous, dans les années 60, les maîtres penseurs, tout texte est le produit de ces contextes, etc. Non, tout texte, un vrai texte s'arrache à ces contextes. Si ce poème-là, traduit dans une autre langue, lu dans un autre contexte culturel, 10 siècles après, vous émeut encore au présent, c'est qu'il est au présent à ce moment-là. C'est donc qu'il y a quelque chose en l'œuvre d'art qui a transcendé le temps de l'histoire, transcendé ses contextes. Si il y a cette puissance dans l'œuvre d'art, elle est dans le créateur qui porte cette œuvre-là. Il y a une dimension de transcendance dans tout créateur comme ça. Mais elle est aussi chez celui qui le reçoit, qui est sensible à ça. Donc elle est dans tout le monde. C'est simplement que l'ordinaire des jours vous fait oublier tout ça. Regardez les débats politiques. On parlera du consommateur, du producteur.
En ce moment, on en a beaucoup, oui.
Oui, mais ça serait quand même bien aussi que l'on n'oublie pas que ce qui compte, qui fait société, qui fait qu'on est ensemble.
On ne parle pas beaucoup des livres, ni de la culture, d'ailleurs, dans le débat national, le grand débat national.
Non, et on n'en parle pas non plus au niveau de l'Europe. C'est absolument désespérant, je crois, parce qu'on a perdu souvent le sens de ce qui était en jeu dans la création. C'est, ça réveille contre l'ordinaire des jours qui vous rabaisse sans cesse. C'est la petite musique qui rappelle qu'il y a une dimension de grandeur en chaque individu, et que si on veut fonder de l'être ensemble, c'est par cette partie plus grande de chaque être humain. Et là, les intellectuels ont une responsabilité énorme. À partir du moment de cette rupture entre les intellectuels et le public, les lecteurs, qui n'existaient pas au temps du romantisme, qui n'existaient pas avant-guerre, ça, l'idéologie avant-gardiste a détruit quelque chose là, qui était le sens même de l'humain, de penser qu'il faut vivre dans un air raréfié et avoir lu Lacan et le savoir par cœur pour goûter pleinement un poème. C'est quasiment insultant vis-à-vis des gens, je trouve. Donc, je voulais dire ça, pour que le livre, c'est vraiment ça le sens du livre, retrouver le sens de cette grandeur en chacun et de comprendre que c'est vital ce qui se joue dans la littérature.
Alors lui aussi, comme vous, il vénère les livres, il en écrit aussi. Nous avons demandé à Jean Rouault parler de vous, écoutez ce qu'il dit.
Avec Michel, on a coécrit le Manifeste pour une littérature monde qui a fait quand même assez de bruit, qui a même, c'est un texte qui a été largement diffusé dans le monde entier et étudié dans les universités. Sur cette idée que la littérature de langue française outrepassait le cadre national et que le français devenait une langue politique internationale et que par ce biais, il y avait tout un imaginaire extérieur qui déferlait dans cette langue et qui était différent de l'imaginaire d'Angoulême ou de Tours, avec quoi c'était fait roman réaliste. Et en fait, j'étais allé le trouver chez lui en août 2006, avec cette idée-là. Et ce qui est bien avec Michel, c'est que vous lancez une idée comme ça, et alors que pour vous le feriez devant 50 personnes, il n'en sortirait rien. Lui, aussitôt, on voit la mécanique qui se met en marche, et évidemment, on développe le projet. Il dit, on va faire un manifeste, après on va faire un recueil, etc. Après on va organiser un tenant voyageur autour de ce thème. Et que ce qui, normalement, reste une parole en l'air, avec lui, ça s'incarne. Et de la même façon, je lui avais dit que j'étais assez agacé par le traitement qu'on réservait à Israël dans ces mêmes années, et c'était pas trop compliqué de voir que tout ça flirtait avec l'antisémitisme et tout. Et donc, je lui avais proposé qu'on crée un étonnant voyageur en Israël, et on est parti là-bas en Israël, on a rencontré les personnalités, et on a donc fait un étonnant voyageur à Haïfa, et on aurait volontiers continué, les Israéliens auraient été d'accord de poursuivre, mais le problème de ce genre de manifestation, c'est que évidemment, faut des budgets, et Michel est très fort pour trouver des budgets, mais là, ça a été un peu trop compliqué, donc on a dû abandonner. Mais on était allés ensemble aussi à Haïti, tous les deux, pour rencontrer les politiques, etc., afin de créer l'étonnant voyageur là-bas. Et c'est au moment de cette édition d'étonnant voyageur, j'y étais pas pour, je ne sais plus pour quelle raison, enfin j'avais pas pu y aller, me libérer, et qu'il y a eu le tremblement de terre, et que Michel a passé 3 jours sur un terrain de tennis à parler et à entretenir tout le monde, comme Platon au milieu de ses disciples, là, comme si au fond le tremblement de terre ne avec toute sa tragédie, etc., mais n'entamait en rien sa réflexion et sa puissance de pensée. Ça, c'est tout lui.
Alors, c'est vrai, Michel Le Bris, et merci à Jean Rouault de s'être exprimé de manière aussi claire vis-à-vis de vous. C'est vrai que vous aimez parler et vous trouvez les mots pour dire votre propre vérité, mais vous savez écrire et vous aimez écrire. Et ce dernier livre qui s'intitule « Pour l'amour des livres », c'est une proclamation de foi dans l'acte de la lecture qui est aussi, évidemment, une possibilité d'acte d'écriture. Que préférez-vous, parler ou écrire?
Écrire,
c'est écrire.
Écrire, parce que il y a quelque chose d'étrange dans le processus d'écriture. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai travaillé avec, aux côtés de Françoise Verny à une époque aussi. Et je lisais pas mal de textes comme ça. Et trois quarts me tombaient des mains parce que c'était des synopsis, simplement. C'est-à-dire des cases, des tiroirs, comme ça, d'un truc organisé par avance. Si vous ne risquez pas votre propre inconnu, il n'y a pas littérature. C'est mécanique, ça m'intéressait pas, je laissais tomber tout de suite. Ce qui me grise dans l'écriture, et je ne le sens jamais mieux, que quand je bute sur une phrase simple, voilà. C'est pas compliqué, voilà. Ben oui, c'est pas compliqué, sauf que quand ça sonne pas. Il manque un pied, ou il y en a un de trop, et puis il n'y a pas de musique. Maintenant, je sais, au début, je me dis, mais enfin, quand même, c'est élémentaire, pourquoi que ça ne fonctionne pas? Et maintenant, je sais que ça veut dire que je suis en train de me planter. Et donc, j'ai cette technique qu'avait Stevenson, d'ailleurs, aussi, mais peut-être à d'autres, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Alvaro, beaucoup, avec Jacques Lacarrière aussi. Je m'endors en pensant très fort à la phrase sur laquelle je bute. J'ai un petit calepin, crayon au pied du lit. Quand je me réveille, elle est là, la phrase. Et qui chante, qui, voilà. Sauf qu'elle dit le contraire de ce que j'essayais de dire. Mais elle est rythmée, elle sonne, elle est juste, etc. Et je sais que c'est le rythme qui a raison. Que c'est la phrase qui a raison. Parce qu'elle contient en creux la deuxième, puis la troisième. Et qui vous révèle que vous étiez en train d'emprunter un chemin qui était une impasse. Et se laisser guider. On a l'impression d'être comme sur une planche de surf portée par une vague. Et le mystère, c'est que cette vague, c'est vous aussi. C'est une part inconnue de vous, tout d'un coup, qui se révèle à mesure que vous avancez sur cette vague. Et alors ça, c'est ça l'écriture pour moi, et ça c'est quelque chose qui est bouleversant, c'est ça que je cherche systématiquement.
Un dernier mot peut-être, Michel Lebris, ce livre s'ouvre par trois pages assez glaçantes d'un grave accident de santé, oui, que vous avez eu, une hospitalisation où vous avez une impression que votre cerveau n'allait plus fonctionner. Manifestement, aujourd'hui, tout est fini et vous allez très bien.
Non, le cerveau fonctionnait, c'est que je passe une nuit bourré de morphine. Le voisin, lui, ne pouvait pas dormir, donc moi, je rallume aussi, j'essaie de lire et je m'aperçois que c'était une masse grise, que je ne voyais plus rien. Alors, à tâtons, je cherche mon calepin, un crayon, j'écris, je ne voyais rien. C'était une masse indistincte. Et là, quand vous êtes plein de morphine comme ça, vous vous dites, mais peut-être que ça ne reviendra pas. Et si ça ne revient pas, en gros, c'est comme si j'étais mort. Et donc, c'est là, dans cette nuit-là aussi, que tout d'un coup, j'ai réalisé que je ne savais faire que ça. Lire, écrire, et que si je ne pouvais plus continuer à écrire, une partie de ma vie était finie, quoi, disons. Et le livre est né de ce moment-là aussi, ce que je dois au livre.
Ben merci infiniment, Michel Lebris.
Merci à vous, Laure.
Ce livre vient de sortir, il s'intitule « Pour l'amour des livres », il vient de paraître aux éditions Grasset. Et pour terminer cette émission, nous avons choisi pour vous, Michel Lebris, deux jeunes chanteurs, Gaël Faye et Flavia Coelho, je suis sûre que vous les connaissez. Leur chanson s'intitule « Balade brésilienne ».
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
Que a situação é que tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Se torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé caminhar na praia e cair na gandaia nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses choix musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Antoine Joubert qui ont préparé cette émission. Et merci à Benjamin Riquet qui l'a réalisé. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous comme chaque vendredi soir avec Didier Varro pour Ça, notre foule sentimentale.